France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Bonjour Klaus Peterzik.
Bonjour.
En duplex de Berlin, et merci à notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu, d'avoir facilité cette liaison. Vous êtes historien, historien allemand, enseignant à l'université Max Bloch de Berlin. Vous avez grandi à l'ouest.
Au centre Max Bloch, qui
au
est une
centre,
partie de,
oui, au...
un institut de la Humboldt Universität.
Absolument, merci de la précision. Je précise aussi que vous avez grandi à l'ouest et que vous travaillez désormais dans l'ancienne partie est. Ma première question, qui n'est pas seulement esthétique, est-ce que la partie est a radicalement changé d'apparence en 30 ans ou est-ce qu'elle est restée comme avant, dans son jus, disent les Français?
Pas du tout. Hein. On reconnaît les gens qui ont vécu comme moi presque 30 ans dans la partie orientale de Berlin ne la reconnaissent plus. Tout a changé. Il y a, je ne sais pas combien de pourcents, il y a des architectes qui pourront vous le dire, mais les blessures de la guerre sont remplies désormais avec des bâtiments neufs. Par exemple, celui-là où je me trouve, qui a été terminé il y a quelques années. Donc, on reconnaît plus. C'est un Berlin, mais aussi à l'ouest, complètement changé.
Et que reste-t-il d'ailleurs aujourd'hui de l'esprit communiste dans la partie est et dans l'Allemagne en général?
Très peu, je dirais, très peu. Il y a la génération qui a vraiment vécu, qui a construit la RDA, elle a atteint le grand âge, elle a déjà disparu, ceux nés dans les années 20, dans les années 30, donc sont ceux qu'on appelle la génération des enfants de la guerre, sont presque plus là, sont là encore la génération qu'on peut appeler la génération des deux Allemagnes, à laquelle j'appartiens, donc ceux qui ont vécu la moitié de leur vie dans la RDA ou dans la RFA, et la seconde moitié dans cette Allemagne unifiée. Alors là, il y a très très peu de gens qui sont restés communistes convaincus. Il y a encore la plateforme communiste comme partie du parti Die Linke, mais c'est
Die Linke. Ouais. Ça veut dire que l'esprit de la guerre froide, en fait, a pas mal disparu aujourd'hui.
Oui, tout à fait. On pouvait se demander en 89, hein, est-ce que la guerre froide allait être terminée? Il y avait beaucoup de gens qui craignaient qu'il puisse y avoir une contre-révolution, hein, une évolution sérieuse dans le sens contraire dans la Russie de Gorbatchev. Mais aujourd'hui, la guerre froide telle qu'on l'a vécue, moi aussi en Allemagne de l'Ouest, elle est terminée. Peut-être elle est en train de renaître.
Un mot sur l'AfD, ce parti d'extrême droite qui est très fort dans l'ex-Allemagne de l'Est. Daniel Cohn-Bendit estime que son succès repose sur une nostalgie de l'autorité quand l'État interdisait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors, Danny Cohn-Bendit donne une explication culturaliste. Je suis largement d'accord avec lui là-dessus. Il me semble aussi que les circonstances matérielles sont moins importantes que des facteurs culturels. Donc, cette nostalgie d'une Allemagne plus blanche, plus masculine, plus autoritaire, elle joue beaucoup là-dedans. Et en effet, il faut le dire, hein, la RDA était un État, une société plus homogène que celle de la RFA d'aujourd'hui, et en particulier dans les grandes villes et en particulier à l'Ouest.
Une question de Patricia Martin.
Pour les 15-20 ans, pour les jeunes, est-ce que la séparation comme ça de deux Allemagnes ne paraît pas aujourd'hui surréaliste? Est-ce qu'on enseigne un minimum tout de même l'histoire de la RDA dans les classes?
Alors, j'ai un fils de 14 ans qui fréquente un lycée qui est dans l'ancienne partie est de Berlin. Mmh. Alors, pour cette génération, en tout cas à cet âge-là, la séparation des deux Allemagnes, la connaissance aussi de ce qui s'est passé est quasiment nulle. Il faut le regretter. Il y a des sondages qui sont parlants. Les gens qui sont plus jeunes que 30 ans aujourd'hui, ils ont un souvenir effacé, une mémoire transportés, vraiment effacés de la dictature. Ils ne savent plus se décider. Est-ce que, par exemple, la RDA était un état de droit ou non? Ils échappent à répondre. Et ça peut être aussi vraiment une raison de se faire des soucis. Hein. Mais on constate la même chose à l'égard du savoir, à l'égard sur le Troisième Reich. Hein. Plus on est loin, et aussi plus que l'enseignement d'histoire en Allemagne comme en France décline en importance, plus on a une ignorance parfois flagrante.
Klaus Peterzig, il y a 30 ans donc la chute du mur de Berlin jour pour jour. La chute du mur, certes, mais finalement le plus important, est-ce que ce n'est pas un an après avec la réunification et ses conséquences? D'ailleurs, des conséquences pas aussi positives que ce que Helmut Kohl laissait entendre à l'époque. Hein. Mm-hmm.
Oui, alors de l'extérieur, quand on voit les villes et villages en Allemagne de l'Est, ce sont des paysages, des villes florissantes. Parfois, l'aspect extérieur est celui d'une richesse vraiment inouïe. Hein. Les bâtiments sont rénovés. Alors comment est-ce que c'est à l'intérieur des gens? C'est différent. Est-ce que la ligne de partage entre les deux Allemagnes existe toujours dans quelques domaines? Certainement.
Il y a des frontières fantomatiques.
Absolument, absolument. Il y a dans tous les secteurs de la société, culture, politique, économie, des lignes de clivage qu'on peut souligner. Hein. Par exemple, la retraite est nettement moindre, le revenu moyen est nettement moindre, la productivité est moindre, les héritages sont moindres en Allemagne de l'Est. Il y a plein de facteurs et il y a des facteurs culturels. Par exemple, la différence par rapport à la religion, la différence. Qu'il n'y a pas eu de révolution culturelle de 68 en Allemagne de l'Est, et donc tout le bloc Est communiste joue beaucoup, je crois. Hein. C'est un facteur lourd, la relation à la religion, à l'Église, tout ça, ce sont des facteurs qui sont inscrits dans la durée et qui vont être présents dans 20 ans.
Sur ce chapitre de l'Église et, j'allais dire, l'aspect anticlérical des anciens Allemands de l'Est, dans quelle mesure est-ce que ça perdure? Est-ce que ça divise les deux anciennes Allemagnes, ça encore? Dans quelle mesure?
Oui, toute l'Allemagne, comme toutes les sociétés contemporaines, occidentales, se sécularisent. Donc cette différence sera sans doute moindre dans 20 ans, 30 ans. Mais quand je regarde par exemple la classe de mon fils à l'école, il est l'un des rares qui va se faire confirmer comme protestant. L'immense majorité est sorti de l'Église. Hein. Et voilà, ce rapport-là joue beaucoup pour les ex-protestants, peut-être moins pour les catholiques, qui étaient une minorité assez fière en RDA.
Toujours à propos des disparités entre les deux Allemagnes, à l'origine, la fusion des deux économies allemandes, elle devait profiter aux Allemands de l'Est, c'est en tout cas ce que promettait Helmut Kohl. Or, au final, vous l'avez déjà dit, c'est bien l'inverse qui s'est passé. Pourquoi l'économie des cinq nouveaux lenders s'est-elle plus largement dégradée après la chute du mur?
Bon, on débat entre historiens beaucoup. En ce moment, il y a quelques nouvelles parutions sur le rôle de la Treuhand. Parfois, je pense, on surestime rétrospectivement par un optimisme un peu de facilité les marges de manœuvre.
Pardonnez-moi, mais la Treuhand, oui. Il faut peut-être dire ce que c'est. Hein, c'est une instance
oui,
en fait qui devait sauver.
Qui devait sauver
le patrimoine allemand. Oui, mais il y a eu des détournements.
Il y a eu des détournements.
De subventions, il y a eu des malversations.
Il y a la disparition de millions, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais vraiment, dire aujourd'hui, à 30 ans de distance, on aurait pu faire facilement autre, c'est je me souviens de ces jeunes gens, jeunes comme moi, à l'époque, qui étaient recrutés à tour de bras par la Treuhand. Et ce qu'on leur disait, surtout, c'est essayer de ne pas faire licencier trop de monde. Alors, le problème, c'est que les marges de manœuvre à l'époque étaient assez réduites. Ce que voulaient les Allemands de l'Est, il faut aussi le dire, c'est avoir le niveau de vie et la devise allemande tout de suite. Et avec ces décisions capitales sur l'union économique qui difficultés financières, qu'il y a des prises dès avant l'unification de l'Allemagne, il faut se le rappeler, l'avantage compétitif que des prix des coûts de travail moindres a été fini.
Ça
a posé beaucoup de problèmes.
Oui, cette parité monétaire qu'a souhaité aussi d'ailleurs Helmut Kohl entre les parités entre les deux marques, elle n'a fait qu'aggraver les déséquilibres économiques.
Absolument.
Helmut Kohl qui n'a finalement pas écouté les mises en garde, notamment de la Bundesbank à l'époque. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Helmut Kohl a été économiquement imprudent?
Il a été rapide, mais on dit beaucoup qu'il a profité d'une fenêtre d'opportunité avec un grand art, un courage de la part de certains hommes politiques ouest-allemands qui correspondait au courage de ceux qui ont manifesté dans la population est-allemande, et que peut-être s'il n'avait pas utilisé avec cette rapidité et cette décision les possibilités qui s'étaient offertes, l'unification ne se serait pas fait aussi rapidement que finalement elle s'est faite.
Mais l'unification, pour qu'elle se fasse vraiment entre deux États égaux, aurait-elle nécessité une nouvelle constitution ?
Oui, là aussi, c'est une seconde question sur laquelle on débat beaucoup. J'ai entendu une représentante est-allemande du SPD ce matin qui le soulignait encore que ça aurait été une faute. Mais je pense que là encore, historiquement, si on reconstruit les marges de manœuvre de ceux qui ont agi, on se rendra compte que la République fédérale et en particulier la population de la RFA de l'époque, elle tenait tellement à sa loi fondamentale, à la Constitution de 49, que c'était vraiment un facteur de stabilité essentiel dans ce processus vers l'unification. Là encore, je pense rétrospectivement, les gens surestiment les marges de manœuvre qui auraient existé. C'était pour les Ouest-Allemands, c'est une sorte de garantie de que dans tous ces bouleversements, il y aurait quelque chose qui dure.
En France, cette semaine, le journal Le Monde Diplomatique a publié ce titre pour parler de la réunification allemande, l'histoire d'une annexion. Est-ce que ce mot annexion est juste à vos yeux ?
C'est un mot dur, et pour vraiment juger si c'est juste ou pas, vraiment, il faut se rappeler ces instants de liesse populaire, nous voulons l'unité, nous voulons le marque, etc. Annexion, ça me paraît très très dur. C'est vraiment le nain de la RDA et le géant de la RFA.
C'est un peu ce qui s'est passé tout de même. Même s'il y a beaucoup de provocations dans ce mot, au final, les Allemands de l'Ouest se sont, si ce n'est accaparés, on fait peu de cas du sort des Allemands de l'Est.
Et il y a même des gens qui ont dit on ne dissout pas un peuple comme on ferme un combinat.
Oui, ça me paraît vraiment trop dur, et ça vraiment fait l'impasse sur une population est-allemande qui voulait vraiment, c'est la population est-allemande qui poussait. Souvenez-vous de ces images de l'été 89, quand des centaines, il y a 200 000 personnes, surtout des jeunes, des bien formés, qui ont quitté la RDA dans ces derniers mois d'existence. Si on avait peut-être pas fait aussi rapidement, et si aussi on n'avait pas cette parité marque est-allemand, marque ouest-allemand, les contrées est-allemandes se seraient encore plus rapidement vidées de leur substance.
Cela dit, la disparité entre les deux Allemagnes réunifiées, elle n'est pas que économique, elle existe aussi dans la représentation nationale, car en fait, hormis Angela Merkel, il n'y a que très peu de représentants de l'ex-RDA dans les centres de décision.
Il y avait quelques-uns, dont le président de la République, Gauck, récemment, et je pense qu'on va là. C'est vrai qu'il y a une sous-représentation flagrante. Si on prend pas seulement la politique, mais l'économie, il n'y a aucun président, par exemple, on le répète ces jours-ci, aucun président est-allemand des 80 universités allemandes. Il inclut en Saxe, en Thuringe, sur la mer Baltique. Donc là, il y a un déséquilibre, c'est vrai, flagrant. Il n'y a aucune entreprise du CAC 40 allemande implantée dans les nouveaux Länder. Il y a 9 sièges sur 500 des plus grandes entreprises du Mittelstand allemand qui sont est-allemands. Donc c'est vrai qu'il y a un déséquilibre flagrant, mais quand nous regardons comment les nouveaux Länder ou certains des nouveaux Länder s'adaptent à une économie désormais changeante, accélérée pour toute l'Allemagne, on se rend compte que par exemple la Saxe et la Thuringe et aussi la région brandebourgeoise autour de Berlin s'en sort très bien.
Klaus Peter Zick,
ça va donc changer.
Historien donc au centre Marc Bloch de Berlin, enseignant. Un mot plus personnel, hein, je disais, vous avez grandi à l'ouest et puis vous aviez aussi de la famille à l'est. Était-ce une famille que vous alliez la possibilité d'aller rencontrer à l'est? Ça se passait dans quelles conditions?
Absolument. Enfant et adolescent, je faisais des voyages en Allemagne de l'Est, en Thuringe, avec mes parents. Je faisais aussi des voyages, comme tout Allemand quasiment, de l'Ouest de ma génération, à Berlin Ouest, mais aussi à Berlin Est. Le dernier voyage que j'ai dû faire avant la chute du mur, c'est en 82 ou 82, je crois. Donc j'ai bien connu l'Allemagne de l'Est avant la chute du mur.
Qu'est-ce qui vous surprenait quand vous passiez de l'Ouest à l'Est RDA?
Écoute, je vais être très franc. Moi, j'ai passé le novembre 89 à Paris comme jeune historien. L'Allemagne, la Thuringe que j'ai connue, Berlin-Est que j'ai connue, c'était évidemment beaucoup plus étranger pour moi que Paris, que Colmar, que Strasbourg, que je connaissais depuis mon enfance.
Vous parliez tout à l'heure de l'été 89, en octobre 1989, et ça on le voit très très bien dans le film de Patrick Rothman sur le mur de Berlin, quand Gorbatchev vient à Berlin, il est acclamé, il y a des manifestants qui crient « Gorbi, Gorbi », mais il a aussi, pour que de quelques activistes ça devienne comme ça, ce grand mouvement que ça a été, il a aussi fallu beaucoup de courage civique. Ça aurait pu, il y a eu des charges de police, il y a eu des blessés, il y aurait pu avoir des chars, des tirs. Ça aurait pu être Tiananmen. Hein.
Oui, tout à fait. C'est exactement cela. Aujourd'hui, on passe rapidement de la chute du mur à l'unification. On ne se rappelle plus qu'il y a des mois et des mois entre les deux événements et que vraiment on pouvait craindre cela, qu'il y avait aussi une décision, et on l'a négligé peut-être trop dans ce processus, une décision de la part de ceux qui objectivement avaient le pouvoir à Berlin-Est de ne pas le défendre les armes à la main.
Une question d'une auditrice de France Inter, Karinam, qui vous demande que sont devenus les Allemands qui travaillaient à la Stasi? Alors on va rappeler, la Stasi, c'était cette agence de renseignement qui espionnait tout le monde. Que sont-ils devenus? Où travaillent-ils aujourd'hui?
Parfois, ils ont très rapidement quitté l'Allemagne de l'Est pour s'éterrer en Allemagne de l'Ouest, aussi ailleurs, en Argentine, Afrique du Sud, etc. La majeure partie, elle a des boulots, des professions libérales.
Prenons, la question sous-jacente, c'est qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières.
Est-ce qu'il y a ceux qui sont qui ont été concernés, bien sûr, ils diraient que oui, et qu'il y a une sorte de chasse aux sorcières. C'était dur. J'ai vécu des instants assez durs. J'ai vu ce processus de purification moi-même à la Humboldt Universität, l'ancienne université phare du communisme est-allemand, et où il y avait dans le département d'histoire, ailleurs aussi, dans les départements de droit, quand même pas mal de membres de la sécurité qui ont, par un processus qu'on appelait à l'époque la Durchgaukung, qui ont dû quitter leur poste.
Merci de votre vision ce matin, la vision d'un historien, d'un politologue également, au duplex de Berlin, Klaus Peter Zick. Merci de nous avoir éclairé sur cette chute du mur de Berlin 30 ans après. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 8h38.